C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Il y a eu un coup de théâtre aujourd'hui dans le dossier épineux du REM de l'Est de Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a été écartée du projet. Et le gouvernement du Québec qui replante le flambeau. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, elle avait critiqué la gouvernance du projet par la Caisse de dépôt et demandait qu'on lui fasse une place autour de la table pour une meilleure intégration urbaine parce que, bien sûr, cette structure surélevée sur René Lévesque, ça faisait pas l'unanimité. Valérie Plante, mairesse de Montréal, est avec nous. Madame Plante, bonjour.
Bonjour, M. Quentin.
Madame Plante, dites-moi, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Montréal aujourd'hui?
Ah ben oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'on vient de sauver un projet majeur, un projet qui était menacé pour des raisons très, très évidentes, entre autres le tronçon du centre-ville qui aurait été une erreur historique là, si on allait de l'avant. Mais en même temps, il y avait toute une partie qui fonctionne puis il faut du transport pour l'Est. Alors, pour moi, c'est une victoire et je suis très heureuse qu'on aille de l'avant.
Bon, dites-moi, il y a des gens qui pourraient penser que c'est peut-être une façon de mettre sur une voie d'évitement ce projet-là. C'est pas le cas?
Non, au contraire, moi, j'ai le sentiment profond, puis c'est ça qui m'a poussée à réfléchir, entre autres, avec la STM, avant d'appeler le premier ministre pour lui dire, faut qu'on sauve ce projet-là. Monsieur le premier ministre, faut sauver ce projet-là. Et c'est sûrement pas en attendant, puis en gardant le projet tel quel, parce qu'on le répète, autant il y avait une portion, hein, celle de l'Est, qui était somme toute très consensuelle, mais il y avait beaucoup d'enjeux. Je pense au parc Morgan, dans Mercier, Hochelaga-Maisonneuve. Je pense, bien sûr, au quartier chinois, à la structure surélevée, mais aussi à la question de la connectivité, hein, c'est-à-dire que le projet de base, eh bien, le REM de l'Est n'était pas connecté au réseau de métro, à la ligne verte, puis ça, c'est un problème. Alors, on vient régler les irritants, puis on garde ce qui marche.
Mais comment on va le financer? Parce que dans la mouture initiale, c'était la Caisse de dépôt qui prenait le risque financier. C'est pour ça qu'ils voulaient que le REM se rende jusqu'au centre-ville de Montréal. Là, on abandonne ce tronçon-là. On veut faire la jonction potentiellement avec une station de métro dans l'Est, que ce soit Noirmoutier-Beaugrand ou une autre. Mais qui va payer au bout du compte là, si la Caisse de dépôt, si son modèle économique n'est plus sur la table?
Ben écoutez, des projets de transport collectif, on en a fait là, avant à la CDPQ. C'est un modèle d'affaires qui était proposé par la Caisse de dépôt et de placement, soit, mais il en demeure pas moins qu'il y a plein d'autres projets qui sont financés, qui sont publics et qui sont financés comme tels. Je pense entre autres à la ligne bleue qu'on vient de faire débloquer d'ailleurs, puis ça j'en suis extrêmement fière. Je l'utilise, la ligne bleue, pour dire qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on passe à l'extérieur de la boîte. Entre autres, ça peut être au niveau de la captation foncière. On peut vraiment réfléchir à l'extérieur. Peut-être que même que la Caisse de dépôt pourrait être participer au montage financier, pourquoi pas. Mais à ce moment-ci, ce qui était crucial pour moi, c'était de sauver le projet, d'aller de l'avant. Je le répète, là, ça s'en allait dans un mur, là. Alors, fallait qu'on bouge, puis c'est ce que j'ai proposé au premier ministre.
On sent quand même un peu d'inquiétude. Je lisais dans la presse le commentaire de Jean-Denis Charest, qui est PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Il dit, lui, c'est impensable d'envisager que l'Ouest et l'île de l'île et la Rive-Sud auront un lien direct avec le centre-ville, alors que l'Est sera en reste. Il dit, nous invitons les décideurs à ne pas créer une iniquité territoriale. Il y a des gens qui sont quand même inquiets pour la suite des choses.
Mais je comprends l'inquiétude, mais je le répète, là, à ce moment-ci, c'était une question de est-ce que ce projet-là va se faire ou non. Quand on a une partie importante d'un projet qui ne fait pas l'unanimité, ce n'est pas rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce projet-là serait mort au chapitre? Pour moi, c'est inacceptable qu'on attende, par exemple, le BAP pour déterminer que le BAP, c'est après les élections, puis c'est dans un bout, là. Moi, je voulais agir maintenant, justement pour envoyer un message clair aux gens de l'Est, là, de Rivière-des-Prairies, de Pointe-aux-Trembles, qu'il faut qu'il y ait du transport. Et je le répète, on va venir bonifier la ligne verte. La ligne verte, ça veut dire plus de wagons, plus de fréquences. Et ça, moi, je pense que c'est de maximiser sur ce qui existe déjà et de venir ajouter ce qui manque.
Mais comment on va faire ça? Le métro, il y a ses limites. Là. Il y a 9 wagons. Il n'y en a pas plus qui peuvent entrer en gare. Déjà, aux heures de pointe, on circule à peu près aux 3 minutes. Ça va être difficile d'en ajouter aux heures de pointe.
Ben non, au contraire. Donc, vous comprendrez bien qu'avant d'en parler avec le premier ministre, je me suis assis avec la STM. Et donc, des wagons, on peut en ajouter et des fréquences aussi. Et ça, c'est important. Alors, on va venir la bonifier. Mais il faut savoir aussi que le modèle précédent venait un peu dans... Il y avait beaucoup de critiques comme quoi ça venait cannibaliser également. Donc, moi, je trouve que ce qu'on propose aujourd'hui, encore une fois, là, c'est de sauver le projet. Moi, je le vois vraiment dans cette optique-là, puis c'est ce qui m'a motivée depuis le début à trouver une solution. Mais je pense aussi qu'on vient, maximiser le transport qu'on a, en ajouter là où c'est nécessaire, et aussi ne pas complètement défigurer le centre-ville qui fait partie de notre carte de visite. Il faut protéger le patrimoine, pas le détruire.
Bon, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Mme Plante, c'est une bonne nouvelle, à votre avis, pour Montréal aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit sur le pouvoir des villes? Parce que je regarde quand même ce qui s'est produit dans les derniers temps. Là, on sait que le projet de tramway à Québec, il y a des députés caquistes qui étaient contre la vision du maire Bruno Marchand. Finalement, il a réussi à imposer sa vision. Dans le dossier du REM de l'Est, vous étiez manifestement pas en faveur de la structure surélevée. Vous avez eu gain de cause. Est-ce que les villes sont en train de prendre une influence dans le processus décisionnel au Québec qu'on ne voyait pas auparavant?
Bien, je peux vous dire qu'au niveau du transport et de l'aménagement, heureusement qu'on ne voit au chapitre, parce qu'on est les mieux placés pour connaître notre territoire, connaître les populations puis les besoins. Alors, autant ce sont les gouvernements supérieurs qui financent, puis on le respecte, mais il faut aussi respecter nos compétences, notre expérience. Et c'est pour ça que j'avais intervenu moi-même dans le dossier de M. Marchand en disant les villes, on est les mieux placés pour penser à l'aménagement. Alors, ça doit être pris en ligne de compte, puis on travaille en équipe.
Bon, là, à partir de maintenant, il y a une nouvelle équipe de travail qui va se mettre à l'œuvre. Depuis le début du projet du REM de l'Est, vous avez reproché à la Caisse de dépôt de ne pas vous avoir inclus dans le processus décisionnel. Vous n'étiez pas vraiment au courant des démarches. On vous a mis à quelques reprises avant le fait accompli. Est-ce que vous avez des garanties cette fois-ci, Mme Plante, que la Ville de Montréal, par l'entremise de sa mairesse, sera à la table des décideurs, des décideuses et aura une influence directe sur le projet?
Bien, la réponse est oui, parce que autour de la table, c'est l'autorité régionale du transport collectif sur laquelle la mairesse de Montréal siège, aussi la STM, qui est notre société de transport, la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec. Alors, pour moi, c'est les bonnes personnes autour de la table. Et l'équipe que je viens de vous mentionner, là, les quatre partenaires, ce sont les mêmes qui ont fait débloquer la ligne bleue il y a quelques semaines de ça. Alors, pour moi, c'est les bonnes personnes, c'est les bonnes équipes. Puis, ce qu'on souhaite, c'est de rester dans les mêmes eaux au niveau de l'échéancier également. Il faut le savoir, le premier ministre et moi, on l'a dit ce matin, on aimerait que ça se passe, que l'échéancier du projet initial soit le même pour celui-ci. On part pas de rien parce qu'on a tout le travail qui a été fait par la CDPQ. Puis en plus, bon, on enlève un tronçon, donc on enlève sous une façon un peu de travail, mais dans tous les cas, je suis convaincue que ça va être le meilleur projet pour les gens de l'Est, puis pour le centre-ville également.
Mais est-ce que c'est réaliste de penser que les délais peuvent rester les mêmes dans un projet d'une ampleur semblable où on recommence pas à zéro? Je suis d'accord avec vous, mais quand même, c'est un projet qui sera complètement différent.
Mais on s'est dit ce matin que ça pourrait être une différence de quelques mois, mais sûrement pas de quelques années. Puis à titre d'exemple, il faut savoir que le fait de reporter les audiences du BAP, déjà avec le projet initial, on venait d'accumuler, je dirais, quelques mois de retard. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que l'échéancier de base, on y tient pour des raisons évidentes et qu'on va mettre toute l'énergie nécessaire pour y arriver, vraiment.
Bon, Madame Plante, il y a le projet de REM vers l'Est, mais on voulait aussi éventuellement construire quelque chose qui irait dans une direction plus nord-est qui pourrait nous conduire jusqu'au cégep Marie-Victorin. Est-ce que c'est toujours dans l'air?
Ah ben oui. Oui, le cégep Marie-Victorin, puis j'ai envie de vous dire, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça se rende à Rivière-des-Prairies. Donc, la branche nord se tourne, continue vers l'est encore, de la même façon que, bien sûr, la branche là plus au sud, elle, va se rendre jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Et là, ben, ce qu'on a présenté ce matin à titre de président de la CMM, j'ai demandé au premier ministre, ben, on devrait se rendre de l'autre côté aussi, sur la rive nord, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de problèmes. En fait, ils n'ont pas d'option de transport collectif. Alors, profitons-en pour faire un projet bonifié qui va servir encore plus de monde.
Est-ce que ça ressemble un peu à un projet de ligne rose dont on a parlé dans une certaine campagne électorale en 2017?
Ben écoutez, moi, là, j'ai un tronçon de la ligne rose qui est sécurisé là, au PQI du gouvernement du Québec, hein, c'est-à-dire du centre-ville jusqu'à la Chine. Mais vous savez, il y a encore des études qui sont en cours à la RTM pour savoir comment est-ce qu'on va venir désenclaver, mais enlever, là, donner du lest donner de l'oxygène à la ligne orange existante pré-pandémie. Alors, qui sait, peut-être que la ligne rose de Montréal-Nord au centre-ville reviendra d'actualité, mais pour le moment, je vais me concentrer sur le REM de l'Est.
Bon, et bien sûr, la grosse nouvelle du jour, c'est que le centre-ville de Montréal sur René Lévesque ne sera pas défiguré par une structure aérienne. Dites-moi, Mme Plante, en terminant, est-ce que ça a été difficile de convaincre le gouvernement Legault, qui avait pas mal fait son nid avec Caisse de dépôt Infra dans ce projet-là, de changer d'avis?
Honnêtement, moi, j'avais, comme je vous disais, là, j'ai tourné ça tout bas, tout côté, puis le moment où j'ai discuté avec le premier ministre, ça, tous les deux, on adhérait aux mêmes valeurs. Puis c'est ça qui est important, c'est-à-dire, faut du transport dans l'Est, puis à partir de là, comment on le fait, comment on garde ce qui fonctionne, puis comment on se débarrasse ou on laisse tomber ce qui fonctionne pas. Alors, quand j'ai fait, j'ai présenté une proposition au premier ministre, très rapidement, pour lui, pour son équipe, c'est la bonne chose à faire parce qu'on veut avancer, on veut pas reculer, on veut pas abandonner, on veut aller de l'avant.
Bon, et vous avez mis un petit peu sur la sellette dans ce dossier-là il y a quelques mois, Monsieur Legault. Puis là, ben finalement, vous avez tenu votre bout. Alors, vous devez être quand même assez satisfait de la tournure des événements.
Mais écoutez, on se rappellera que Monsieur Legault avait dit à quelques occasions qu'il voulait un projet dont la mairesse serait contente. Il m'a dit, je veux que la mairesse soit contente. Ben là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la mairesse est contente.
Bon, ben excellent. Valérie Plante, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, bon après-midi, au revoir.
OK, bonne fin de journée. C'était Valérie Plante, mairesse de Montréal, à propos de la décision de cesser le projet du REM de l'Est avec la structure surélevée sur le boulevard René Lévesque. Il y a un nouveau projet qui va être dessiné et qui va s'arrimer à la ligne verte du métro.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Luc.
Salut Philippe.
Luc, tu viens d'écouter Valérie Plante, t'en retires quoi?
Ben, beaucoup de satisfaction, puis elle a raison. Alors, c'était la proposition qui a été faite par le gouvernement là, pour la branche du centre-ville, avec le comité d'experts en design qui les accompagnait, pas par le gouvernement, mais par la CPDQ, c'était très, très ambitieux. C'était le plus loin qu'ils pouvaient aller pour essayer de faire passer cette branche cette partie aérienne qui devenait souterraine à un moment donné à Bleury, mais ça coûtait des centaines de millions de dollars et ça enlevait la moitié de la capacité routière de René Lévesque. Alors, et puis ils n'avaient pas l'argent pour payer ça, ils disaient c'est la ville qui va le payer, mais ça restait pas satisfaisant. Alors, c'était clair que il fallait, c'est là que le bât blessait et c'est par là que le projet est tombé finalement. Et moi je suis surpris de voir le gouvernement reculer, pas juste reculer mais s'adapter et de façon aussi majeure, parce que je me rappelle de projets qui sont tombés là, comme l'autoroute en tranchée le long de la rue Notre-Dame, à la place de la rue Notre-Dame. C'est Tremblay qui voulait pas avoir ce projet-là. Je me rappelle donc que la ville a pu imposer ses demandes au gouvernement, mais le gouvernement a tout simplement retiré le projet. Par la suite, ils ont essayé d'autres plans, etc. Mais qu'un gouvernement recule aussi vite, adapte son projet aussi rapidement en disant « OK, c'est correct, on a pris note et puis maintenant, on va connecter le REM sur la ligne verte au lieu de la connecter au centre-ville, ce qui va empêcher d'une part le tronçon aérien au centre-ville, mais aussi va enlever tout le chevauchement qu'il y avait entre la ligne verte et le REM. » Ça, c'est à ma connaissance, c'est pas courant, c'est peut-être même du jamais vu.
Mais ça fait trois fois dans les derniers mois que le gouvernement Legault change d'idée dans deux cas à Québec, puis dans le cas à Montréal, là, on vient d'en parler, celui du REM de l'Est. À Québec, tu te souviens, encore récemment, il y a des députés caquistes là, qui s'opposaient au projet du maire Marchand dans le segment là sur René Lévesque, mais là, le boulevard René Lévesque de Québec sur un 500 mètres où on disait que ça allait pénaliser les automobilistes des régions. Même M. Legault disait qu'il fallait qu'il y ait de l'acceptabilité sociale avant qu'on lance les appels d'offres. Finalement, ils ont reculé. Et même sur le troisième lien, le projet est encore dans les cartons, mais en redéfinition, l'immense tunnel à deux étages, six voies, oups, c'est rendu pas mal plus modeste.
Absolument. Hein. Donc, c'est le gouvernement qui fait preuve là, d'une capacité, puis il le fait dans d'autres domaines aussi. Je me rappelle avec l'immigration, notamment au début du mandat, mais plein d'autres. Donc, oui, un gouvernement qui fonce, mais qui, à un moment donné, reconnaît l'opposition. Mais il faut dire une chose, on est en année électorale. En année électorale, se mettre à dos des pans entiers de la société, c'est pas facile. C'est souvent en année électorale que des concessions majeures. Celle-là est majeure, puis on va la prendre.
Bon. Qu'est-ce que ça dit sur l'implication de la Caisse de dépôt, à ton avis?
Bon, regarde, ça, c'est intéressant. Parce que la Caisse de dépôt, là, c'est un projet BOO, là, que les Anglais disent, Build, Own and Operate, en français. Donc, tu construis, puis tu exploites par la suite. Puis tu finances, tu construis, puis tu exploites par la suite. Mais ça posait un problème, mais la STM est capable de construire, elle est capable d'exploiter, elle le fait là. Tous les ans, en ce moment, tu as le garage Bellechasse, un énorme garage souterrain, tu as eu le garage Crémazie qui vient d'être construit, tu as la ligne bleue qui est planifiée, puis la construction va commencer. Donc, c'est le travail, c'est le métier de la STM. Alors, on n'avait peut-être pas besoin de la caisse pour ces deux métiers-là, là, construire puis exploiter. Là où la caisse était importante, c'était qu'elle finançait. 10 milliards, c'est pas rien, tu sais. Alors, on a décidé qu'on allait se priver de ce financement-là. Mais ce financement-là n'était pas gratuit parce qu'il vient avec une obligation d'un retour sur l'investissement de 8 % pendant 100 ans. Alors, le gouvernement a dû faire ses calculs et s'est rendu compte que si lui-même faisait l'investissement, ça ne coûterait pas 8 % pendant 100 ans. Et donc, le gouvernement décide de contourner la caisse. Ça, c'est le premier élément à dire. Le deuxième élément où la caisse faisait quelque chose que la STM ou la RTM ne font pas, c'est de la captation foncière. C'est-à-dire que il y a un règlement de taxe qui dit que si tu construis à 500 mètres d'une gare au centre-ville ou à 1 km d'une gare loin du centre-ville, tout ce qui est construit doit payer une taxe à l'ouvrage de transport en commun. Parce qu'on se dit, bon, si tout à coup il y a un quartier qui pousse dans un champ loin de Montréal, c'est parce qu'il y a une gare à cet endroit-là. Ça vient pas. Donc la gare, elle peut pas être entièrement payée par le public, puis les profits s'en vont entièrement aux municipalités ou aux promoteurs. Il faut qu'il y ait un partage. Ça, est-ce que le gouvernement va permettre à la STM et à la RTM de faire de la captation foncière? Et ce sont des demandes qui ont été faites à de nombreuses reprises par les deux organismes et qui ont toujours reçu une fin de non-recevoir.
Est-ce que tu es en faveur, toi?
Totalement. Totalement en faveur. Si la STM est capable de payer ses ouvrages en partie avec de la captation foncière, va pouvoir faire le même travail que la caisse. On a vu, par exemple, dans le cas de... Ça n'a pas marché dans le cas de la ligne bleue. La ligne bleue, la STM disait, regarde, la ligne bleue va arriver au coin de Jean Talon et Pie-Neuf. Donnez-moi la capacité d'acheter des terrains à cet endroit-là, puis on va vous construire, on va céder ces terrains-là par la suite à des promoteurs qui vont construire des tours ou de moyenne ou de grande hauteur. Et on va tellement rentrer dans notre argent. Si on fait juste dire, on s'en vient installer une gare, puis le centre d'achat boulevard, lui, va aller chercher tous les profits si jamais il transforme son édifice. Et là, tu perds beaucoup, beaucoup d'argent. Ça n'a pas fonctionné parce que le gouvernement a refusé l'augmentation des coûts de la ligne bleue. Et dans l'augmentation des coûts de la ligne bleue, il y avait ces projets d'achat de terrain. Et Mme Rouleau était venue à Montréal, puis elle avait dit, ça coûte trop cher, il n'y en a pas question, puis ça a été aboli. Mais c'était pas une bonne idée.
OK. Dans tout ce que Valérie Plante a dit tantôt, il y a une chose qui m'a vraiment intrigué. Elle dit qu'il n'y a pas d'ennui à augmenter la capacité sur la ligne verte, la capacité de transport des gens. Or, il me semble, Luc, que le matin, aux heures de pointe, les 9 wagons sont pas mal pleins, on est pas mal serrés, puis que les trains passent quand même assez rapidement. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a moyen d'augmenter la capacité?
Oui, parce que quand j'étais là, j'ai posé la question à des... directeur des opérations du métro, je leur disais, j'avais posé exactement la même question que toi avec les mêmes doutes. Voyons donc, peux-tu vraiment passer des métros à moins de 3 minutes? Et il y a deux éléments qui empêchent de passer des métros plus rapidement. C'est l'entrée et la sortie des wagons. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'on veut jamais qu'un métro arrête dans un tunnel parce que le métro d'en avant est pas prêt, est pas reparti.
Parce que la clientèle aime pas ça, là, être coincé dans le milieu du tunnel sans que le train avance.
Ouais, pour des fins de sécurité, aussi le STM n'aime pas ça. Et en prenant en compte ces deux variables-là, il calculait que tu pouvais presque doubler la capacité.
Ah ouais? Est-ce qu'on a les wagons?
Non, mais non, ça va coûter des milliards.
Ben voilà, c'est ça. Donc ça va falloir ajouter ça au coût aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est un élément à prendre en considération. Là. Mais bon, combien va y avoir de... Mais par contre, ce désavantage-là de devoir rajouter des wagons et des trains, il est beaucoup moins grand que le désavantage d'avoir deux ouvrages qui roulaient en parallèle à partir de Honoré-Beaugrand jusqu'au centre-ville. Tu avais deux ouvrages à chacun un milliard du kilomètre quasiment, là, ou mettons 400 millions dans le cas du REM, qui passait à côté de l'autre, ça n'avait aucun bon sens.
Tout à fait. Bon, ouais. Ben souhaitons maintenant qu'il y a quand même des pannes une fois de temps en temps dans le métro. Souhaitons qu'on règle ça aussi. Oui. Luc, merci beaucoup pour ces éclairages, c'était super intéressant.
Merci à toi.
Catherine, tenir un premier rôle au cinéma, c'est toujours très, très difficile. Mais tenir un premier rôle quand il faut que tu incarnes une personnalité publique qui a une dimension extraordinaire dans notre histoire, c'est encore un plus gros défi.
Oui, c'est vraiment complexe. On l'a vu, il y a eu énormément de biopics qui ont été produits ici au Québec, mais même aussi à l'international. Dernièrement, on est beaucoup dans les films musicaux avec des personnalités très, très connues. Je pense à Bohemian Rhapsody. Mais là, on va parler du casting de Guy Lafleur. Parce que depuis son décès, j'avoue que je lis beaucoup de papiers qui parlent de qui pourrait jouer Guy Lafleur. Je sais que la production n'en est même pas là encore.
Parce que le film s'en vient. Là.
Le film s'en vient, mais le film est encore en ce qu'on appelle en écriture. J'ai invité Christian Larouche, qui est le producteur du film pour les films Opal. Bonjour Christian.
Bonjour, ça va bien Catherine?
Oui, on va le dire tout de suite, on finit pas la chronique en disant qui va jouer Guy Lafleur, hein?
Non, ça me surprendrait.
En tout cas, les gens sur la messagerie sont déchaînés, fait que tantôt, je vous donnerai quelques propositions.
Parfait.
Il y a eu un sondage ce matin qui a été publié dans la presse. On parle de peut-être Luc Picard, de Sébastien Delorme, de Maxime Leflaguet, Antoine-Olivier Pilon, Pierre-Luc Funk, Henri Picard, qui est le fils de Luc. Luc scénarise le film. Mais avant de commencer à spéculer, Christian, j'ai envie d'entendre qu'est-ce que vous cherchez. En fait, quel genre de comédien pourrait incarner Guy Lafleur? J'imagine qu'il y a plusieurs critères, là.
Il y a plusieurs critères. Premièrement, c'est qu'il va falloir qu'on commence avec un jeune Guy Lafleur quand il a joué au tournoi. Puis oui, alors, ça veut dire qu'il va avoir 12 ans, 10, 12 ans. Après ça, on va aller quand il a joué aux Arts de Québec, qui avait à ce moment-là 17, 18 ans avant qu'il arrive à Montréal. Et après ça, un autre qui va probablement personnifier jusqu'à la fin de 30 ans, en fait. 35, 40 ans. Alors, c'est ce qu'on prévoit. C'est au moins trois comédiens pour jouer son rôle.
Est-ce que ces comédiens-là doivent absolument patiner d'une façon exemplaire?
Ben, c'est sûr qu'on va essayer de privilégier des gens. Premièrement, on va privilégier le talent, ça c'est un. Mais deux, il va falloir qu'ils prennent des cours de patinage, ça c'est sûr. Et patiner avec des patins à tuyaux, c'est pas du tout comme patiner avec des patins aujourd'hui. Là. Je veux dire, à l'époque, je sais pas. Moi, j'ai commencé à patiner. Je ne vole pas mon âge, mais ça alors il reste ça. C'est pas la même façon de patiner aujourd'hui qu'on l'était à l'époque. Il y a des patins qui étaient beaucoup moins rigides comme aujourd'hui ils sont là.
Christian, dites-moi, puisque vous pensez à trois comédiens pour incarner Guy Lafleur à chacune des périodes de sa vie, ça veut dire que vous voulez nous raconter toute sa vie, depuis sa tendre enfance jusqu'à son après-carrière. C'est pas trop ambitieux raconter toute la vie d'un homme dans un film de quoi, deux heures et demie?
Ouais, mais non, mais on va arrêter vraiment à sa retraite, là, quand il prend la retraite avec les Nordiques. Pour nous, c'est là qu'on arrête. On n'ira pas de l'après. Qu'est-ce que... avec la vie de Guy après qu'il s'est retiré. Là. On n'ira pas là parce que là, effectivement, il faudrait qu'on fasse un 4 heures de film, là, puis c'est pas le cas. Mais ça va être difficile. On ne rencontre pas non plus de A à Z de la vie de Guy à partir du moment qu'il est devenu Pee Wee et qu'il est rendu jusqu'à sa retraite. On va quand même raconter des choses, mais c'est pratiquement impossible de raconter. On ne sera pas linéaire, ça je peux vous le confirmer. On ne sera pas linéaire comme le Maurice Richard a été fait à l'époque, qui est un bon film, mais nous, c'est pas notre intention. On veut rendre un film un peu plus moderne aujourd'hui. La manière qu'on pense, Luc et moi, mais le film est en écriture, alors on va voir ça d'ici quelques mois, là, mais c'est un peu ça qu'on peut faire. Nous.
Christian, tu as produit des films comme Louis Cyr et Jerry, qui étaient deux biopics. Oui. Quand on a choisi les personnalités qui étaient pour incarner Louis Cyr et Jerry, c'est Antoine Bertrand et, mon Dieu, j'ai un trou de mémoire.
Mario Saint-Amand.
C'était pas nécessairement, en tout cas dans le cas de Mario, c'était pas nécessairement écrit dans le ciel que c'était pour être lui qui était pour être Jerry. Il y a eu de l'aide de Perruque, il y a eu de l'aide aussi des gens qui entouraient Jerry qui lui ont aidé à l'incarner.
Oui, absolument. Parce que Louis VI, c'était pas difficile. C'était vraiment Antoine Bertrand qui était la personne. C'était un peu comme. Mais pour Jerry, effectivement, on avait d'autres acteurs. Et puis quand on a mis la perruque, on le pensait un peu vieux pour jouer le rôle. Mais quand on a mis la perruque sur Mario, ben là, c'était tout de suite. On se fait OK, c'est vraiment lui qui personnifie le mieux Jerry. Et puis on est parti à ce moment-là avec lui. Et qui chantait quand même, il y avait une voix aussi, c'est ça, pendant un chanteur. On voulait avoir vraiment quelqu'un qui chante vraiment les chansons de Jerry, non qu'on mette de la musique par-dessus sa voix. Alors, c'était tout un processus. Là, la fleur, ça va être complètement différent. Ça va être, je pense, beaucoup plus compliqué.
Ben oui, mais en même temps, vous cherchez l'essence de Guy Lafleur davantage que le physique de Guy Lafleur.
Oui, absolument. Absolument. Je veux dire qu'il va falloir qu'il fasse quand même, tu sais, Guy mesurait de, à peu près 6 pieds 2, cheveux blonds. C'est sûr qu'on les cheveux, ça s'arrange la couleur, mais il restera que il va falloir qu'on ait vraiment la même chose. Ils ont pas de casque. Ça aussi, ça rend aussi un peu plus difficile de tricher parce qu'il va patiner, on va avoir sa crinière au vent. Alors ça aussi, c'est pas évident. Quand on avait un casque ou avec une visière, c'est plus facile à tricher quand on a fait junior majeur d'avoir des doublures. Là, ça va être un peu plus compliqué.
Et quand on parle de l'histoire récente comme de Guy Lafleur, si on se rappelle, ben, autant en cinéma qu'en téléfilm, là, René Lévesque ou encore Félix Leclerc, vous savez que la critique est plus dure parce qu'on n'a pas. On parlait de Louis Cyr, ça fait 100 ans, il n'y a personne qui l'a connu, ouais, qui l'a vu. Comment on peut régler ce problème-là? Est-ce que vous avez cette crainte-là?
Ben là, la crainte vient d'être amplifiée par 10.
Oh oui, hein?
depuis quelques semaines, en fait, ça fait 10 jours. Alors, une dizaine de jours, c'est sûr que là, maintenant, la pression monte de plus en plus. Mais on va prendre notre temps nécessaire et puis on va faire le document qu'on pense qui va être le meilleur possible pour décrire la vie de Guy. C'est sûr qu'on s'expose aux critiques, mais bon, si dans lui, on s'arrête là, mais on ne ferait jamais rien. Alors,
c'est vrai.
Tu as tout à fait raison, Christian.
Bon point.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais, Christian, que tu vas faire partie des funérailles demain. Alors, encore une fois, mes sympathies. Guy Lafleur était ton idole. Alors, oui. Merci et bonne journée.
Merci.
Merci, Christian. Alors, oui, tout un défi. MC, tu as raison de le mentionner aussi. Là, c'est un film qui va être attendu. Tout le monde va avoir son idée sur le film de Guy Lafleur. Ouais. Ça, c'est clair.
Il y a plein d'idées, là. Maxime Leflaguet, il y a Rémi Girard pour jouer Guy Lafleur plus âgé. Luc Picard, évidemment.
Mais là, on a appris là, qu'il n'y aura pas de Guy Lafleur plus âgé. Là. Ça va finir avec sa retraite des Nordiques. 30, donc, 30, on va dans mi-trentaine à peu près.
Sébastien Delorme, peut-être.
Voilà, ça fait partie des choix. C'était Christian Larouche qui est producteur pour les films Opale.
Patrick Lagacé en accéléré.
Catherine, MC, c'est tranquillement le temps de penser à planifier nos vacances d'été. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, pour toutes sortes de raisons, des bonnes raisons, puis aussi parce que c'est un petit peu plus difficile de voyager, un petit peu plus compliqué de voyager à l'étranger ces temps-ci, qui vont passer leurs vacances au Québec. Où aller? Quoi faire? J'en parle avec Isabelle Marjorie Tremblay. Isabelle Marjorie est chroniqueuse voyage. Elle est une exploratrice qui a parcouru la planète. Elle est allée partout au Québec. Salut, Isabelle Marjorie.
Salut!
Bon, écoute, c'est le fun. T'as déjà un ton enthousiaste pour commencer. c'est une bonne idée de passer nos vacances au Québec cet été?
Ah oui, il y a plein de nouveautés. Les entreprises débordent de créativité encore plus dans le contexte actuel. Alors, et puis là, eh bien, la CEPAC là, a annoncé que c'est le moment de réserver pour les nouveaux sites, donc depuis la semaine passée, parce qu'il y a des nouveautés aussi au niveau du site. Alors oui, c'est un bon moment pour y penser. Puis il me semble que ça nous fait du bien là, de parler de vacances,
ben oui,
même si c'est un peu gris en ce moment. Hein?
Ben oui, c'est sûr. Ben au moins, il fait un petit peu plus chaud. La CEPAC, bien sûr, c'est la Société des établissements de plein air du Québec. C'est de très, très, très populaire. Mais je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire. Tu dis que les exploitants font preuve de plus en plus de créativité. Comment ça se manifeste?
Ben en fait par les hébergements insolites notamment. Déjà c'était très à la mode dans tous les hébergements, dormir dans des bulles, dormir dans des sphères suspendues, dans des grottes. Il y a plein d'initiatives comme ça, super originales. Et puis ça se développe de plus en plus. Puis je me suis entretenue avec les offices de tourisme qui m'ont vraiment démontré que c'était à la mode. Tu sais, même au niveau de la CEPAC, il y en a là, des yourtes, des cabanes un peu partout. Et puis je vous donne un exemple dans la Naudière. Moi j'ai testé des hébergements. Déjà c'était déjà à la hausse. Et là il y a une vingtaine de projets en cours pour des sites d'hébergement insolites qu'on appelle aussi des hébergements d'expérience. Puis moi j'ai testé les pieds sur terre à Saint-Calixte, par exemple. J'ai dormi dans une bulle, là, vraiment une vraie bulle.
Mais, si mais une bulle, c'est quoi une bulle?
Ben il faut que tu passes par un sas, là, donc le passage étroit pour pas que la bulle se dégonfle. C'est comme un gros ballon. Puis il y a une mini petite cuisine là qui est reliée à ça par le passage, là, comme dans l'espace finalement, où là tu cuisines, puis après tu passes dans un petit couloir en fermant bien les deux portes, puis tu rentres dans ta bulle. Et là tu peux voir les étoiles, tu peux voir le ciel, tu peux voir les arbres, la cime des arbres. Tu dors en regardant le ciel. C'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, les pieds sur terre sont très populaires dans la Naudière. Puis là, ils ont des nouveautés. Ils ont des maisons des elfes. Ils ont des tipis, tiny house. Et ils ont des maisons des hobbits aussi. Avec une architecture originale, tout à fait intégrée à la nature, là, près des arbres, avec des cercles en vedette un peu partout, des fenêtres rondes et tout ça. Alors, dans la Naudière, vraiment, c'est vraiment juste un exemple. Là, ils débordent de créativité, même à l'auberge du Lac Taureau. Parce que les auberges traditionnelles aussi, sur leur site même, travaillent à déployer des hébergements insolites, des hébergements alternatifs. Donc, à l'auberge du Lac Taureau, il y a le Cool Box, qui est une espèce de container moderne et douillet en pleine nature pour 4-5 personnes. Alors, ça, c'est juste quelques exemples. Donc, auberge du Lac Taureau et les pieds sur terre à Saint-Calixte.
Catherine, est-ce que ça te tente?
Ben moi je sais pas, je suis moins activité. Moi j'aime rester à un endroit presque tout l'été là, comme cet été je me suis loué un chalet pendant un mois, mais j'ai besoin de décompresser. Je peux comprendre par contre qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être actifs, de faire plusieurs choses, tu sais, de bouger, d'aller sur plusieurs sites. Je sais pas toi MC.
Ben j'ai une question pour notre experte, vu que on vous est au bout du fil, on va en profiter. Notre collègue ici Luc Ferrandez, lui tu sais il quand il parle de voyage, il parle surtout de l'Europe et du le Québec. Il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Il y a juste Montréal et Québec. Et Catherine aussi voulait aller en Europe. Pour ces gens-là là, qui aiment plus l'histoire, et puis, est-ce qu'on peut accoter au Québec un voyage en Europe? Et est-ce que tu as des suggestions?
Ah, quelle bonne question. Ben, écoute, en fait, ça m'amène à réfléchir à tout ce qui est de notre histoire autochtone qu'on oublie souvent. Mm-hmm. Puis moi, j'ai discuté avec quelqu'un du tourisme autochtone qui nous dit que maintenant, il y a de plus en plus de sites où on peut apprendre les habitations, où on peut apprendre comment sont les habitations traditionnelles des autochtones. Et il y a plein de Français, puis d'Européens, puis de Belges, de Suisses qui vont vivre ce genre d'expérience-là, qui vont voir ça, puis nous, on n'y va même pas, qu'on n'est jamais allé.
On les connaît pas alors qu'ils vivent avec nous.
C'est ça, exactement. Puis donc on m'a expliqué que c'est vraiment quelque chose qui est à la mode aussi, qui va être très tendance cet été. On souhaite fortement, mais on a déjà remarqué qu'il y avait plus d'intérêt, plus de circulation sur le site de tourisme autochtone. Donc des expériences authentiques, il y a la route des powwows, il y a des festivals, il y a ça qui est vraiment dans notre histoire là. Et puis ben c'est sûr que nous notre grande force aussi c'est nos installations puis c'est la nature là.
Alors parlant de nature, Isabelle Margerie là dans ta liste de suggestions, il y en a une qui franchement je trouve vraiment intrigante, c'est au parc national de la Pointe-Taillon au lac Saint-Jean. Alors là-bas la CEPAC gère maintenant des îles qui sont accessibles uniquement en kayak. Alors donc on va pouvoir aller passer des vacances là-bas en traversant en kayak pour se rendre à notre résidence.
Ça, c'est un de mes coups de cœur. En fait, je suis allée avant que ce soit géré par la CEPAC, il y a à peu près 3-4 ans. Et là, c'est nouveau là maintenant. Donc, c'est vraiment comme une partie plus agrandie du parc de la CEPAC, la Pointe-Taillon. Il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'il y a des îles magnifiques, sauvages, dans le lac Saint-Jean. Donc, à partir de différents endroits, moi, ça a été de Saint-Gédéon. Donc, on peut partir en kayak et se rendre donc sur les îles. Mais, juste le nom, moi, ça me disait rien. C'est l'île Connolly, Beamer et la petite île verte. Il y a 6 emplacements de camping donc sur ces îles-là. Sentiment d'isolement garanti. Ils offrent le transport de bagages ou la navette en bateau si nous, on veut pas se rendre avec tout notre stock, mais on peut aussi le faire en kayak. Moi, je l'avais fait en kayak double avec ma fille de 8 ans, il y a 3 ans. Je l'ai parlé là-bas, à peu près 1 ou 2 kilomètres. Il y a des sites qui sont un peu plus loin. Et tout a été choisi pour qu'on ait une vue spectaculaire là, sur le lac Saint-Jean, vraiment, là, comme pour avoir une espèce d'impression d'être à l'autre bout du monde. C'est vraiment magnifique, ça, je le recommande fortement. Un tête-à-tête privilégié avec le lac Saint-Jean, finalement. Puis tu as l'impression d'être sur l'eau, là, sont bien placés les sites. Alors, on s'y rend kayak, c'est une belle aventure. J'ai adoré faire ça. Puis savoir que maintenant, c'est géré par la CEPAC, fait qu'il y a des toilettes sèches, il y a des emplacements de camping, il y a des tentes, il y a des tables de pique-nique, par exemple. Alors, c'est encore plus fun.
Le luxe, avec ta fille, il a traversé en kayak pour se rendre là-bas. C'est l'expérience d'une vie. Là. Vous allez vous en souvenir longtemps.
Ah, complètement. Ouais. Oh, oui.
Okay. Tu es aussi? Tu t'es perdu?
Oui.
Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, pour le retour, au retour de l'île, en fait, je fallait que j'identifie à peu près vers où on se rendait pour retrouver notre terrain de camping, notre point de départ, finalement. Puis là, je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Alors, c'est parti l'aventure. Moi, j'ai aimé ça.
Ça a pris combien de temps avant que tu remettes le kayak dans la bonne direction?
Ça m'a pris une bonne demi-heure, mais j'ai pas atterri à la bonne place, à mairie, on va dire.
OK. Je me suis pas atterri à mettre. Donc, t'as fait un peu de portage après, là.
Oui, c'est ça, exactement.
Hey, tu veux nous parler aussi de l'hôtel unique? Ça a l'air très, très particulier.
Ah, c'est vraiment le fun, ça. C'est dur à appeler parce qu'il s'appelle Hôtel Unique, mais c'est pas vraiment. C'est dur à nommer parce que c'est pas vraiment un hôtel. Unique, c'est pour unité nomade. Insolite québécoise.
C'est bon.
Alors finalement, c'est vraiment bien parce que c'est un village d'hébergement insolite éphémère qui se spécialise notamment dans le glamping de luxe.
Le glamping,
ça c'est pour moi. Ça me ressemble.
C'est quoi du glamping?
Ben, c'est vraiment la fusion entre un peu de luxe puis un peu de camping. Donc,
le glamour puis le camping.
Exactement. Okay. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a des petits frigos puis c'est confortable, les draps et tout ça. Donc c'est des grandes tentes luxueuses au design original. Est confortable. Et ce village-là d'hébergement insolite, il se promène, en fait, il se trouve en Estrie début d'été et dans les Laurentides dès le 4 août. Ça se déplace de région en région. C'est assez récent comme initiative. Donc, il faut aller sur le site donc Hôtel Unique, mais unique, unité nomade insolite québécoise avec un Q.com pour voir un petit peu où se trouve ce village éphémère.
Alors, je suis certain que Catherine, la question lui brûle les lèvres. Est-ce qu'il y a des bouteilles de champagne qui attendent la clientèle?
On peut apporter notre champagne. Et tu sais, je veux dire, tout est cute habituellement. Les lits, c'est des vrais lits, en fait, non?
Ben oui,
c'est ça. Tu dors pas à terre sur un petit matelas qui souffle. Ça, c'est pas fait pour moi.
Franchement, Isabelle Margerie, j'ai appris beaucoup de choses dans notre entretien. Je pensais pas que l'offre était réellement aussi diversifiée avec des expériences aussi étonnantes. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'auditrices qui vont prendre des notes ou qui vont aller réécouter ça, l'entrevue sur notre site parce qu'ils vont vouloir les infos. C'était vraiment très, très éclairant. MC, savais-tu tout ça, toi?
Non, c'est l'experte, là. Non, moi, j'en sais juste assez. Mais,
juste assez. Ouais. OK, mais on peut aussi aller à Sainte-Anne-de-la-Pérade, hein, c'est encore permis.
Venez l'hiver, là. L'été, c'est trop tranquille.
L'été, c'est plus tranquille. Ouais. OK. Hey, Isabelle Margerie, merci beaucoup de ces infos.
À bientôt.
OK, salut, à une prochaine.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.